Bonjour, c'est Nathalie David-Veil. Vous écoutez quatrième de couverture sur Radio Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alain Kruger, qui a écrit un livre intitulé « Pascal Thomas, souvenir en pagaille » avec Jean-Olé Laprune. Bonjour Alain Kruger.
Bonjour Nathalie.
Je vous présente, vous avez été directeur, rédacteur en chef de magazines comme Sept à Paris, L'Autre Journal et Première, producteur de radio et animateur avec votre émission On ne parle pas, la bouche pleine, et journaliste pour À Voix Nue et France Culture. Vous êtes aussi producteur d'une émission sur le cinéma Le Cercle sur Canal+. Vous avez été commissaire de l'exposition Louis de Funès à Paris comme à Bruxelles. Et aujourd'hui, vous nous présentez Pascal Thomas, souvenir en pagaille, anecdote recueillie bien malgré lui par Alain Kruger et Jean-Olé Laprune, qui lui est historien du cinéma, auteur de nombreux livres sur le cinéma. Ce livre a reçu le prix Transfuge du meilleur livre du cinéma en 2024. La première question que j'aimerais évidemment vous poser, c'est comment écrire à quatre, surtout sur un cinéaste, Pascal Thomas, qui, j'imagine, a voulu participer lui aussi à la rédaction de ce livre de confession où il dit « je ».
Alors, c'est vraiment le sujet d'ailleurs, parce que c'est un livre qu'on a récupéré, parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un livre avec Pascal pour laisser cette trace de ce cinéaste totalement atypique, qui a fait des films qui ont eu beaucoup de succès, d'autres moins, mais qui est une personnalité extrêmement singulière, et j'aime les gens singuliers et fantaisistes. C'est mes mots préférés dans la langue française, je crois d'ailleurs, la fantaisie. Et avec Jean-Olé Laprune, on a vu à un moment donné Pascal qui rageait parce qu'on lui avait commandé un bouquin et il n'arrivait pas, il n'avait rien récupéré. Et donc on lui a dit, mais si tu veux, on va le faire. On va le faire, ce livre.
Et alors, pourquoi à deux?
Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Jean-Louis Laprune, que c'est un grand cinéphile, c'est un puits de science en matière de cinéma, et que connaissant l'animal Pascal Thomas, c'était mieux de pouvoir avoir deux paratonnerres plutôt qu'un.
Et alors, vous avez été voir les éditions Séguier après?
Non, 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 c'est en fin de compte, Jean Le Gall, le patron des éditions Séguier, avait commandé un livre qui devait être en fin de compte plutôt un ghostwriter, et puis il ne s'est rien produit, parce que ce qui se passe avec Pascal, c'est que c'est un homme qui change de chaîne en permanence, c'est-à-dire que il commence une phrase et puis la digression est son fort. Donc on digresse, on digresse, on digresse. Et donc on s'est amusé avec Jean. Enfin, on s'est amusé. Nous avons interviewé Pascal pendant des dizaines d'heures. C'était en particulier pendant la période du confinement. Donc c'était des petites évasions. Hein. On s'évadait pour aller interviewer Pascal. Et puis, on a fait ce travail de décryptage qu'a surtout fait d'ailleurs Jean. Et puis après, moi j'adore le montage, donc on s'est amusé à faire du montage, à reconstruire une histoire. Comme Pascal ne voulait pas faire ses mémoires, comme il ne voulait même pas qu'il y ait le mot souvenir, qu'il trouvait trop mélancolique, qui ne voulait pas que ce livre existe, mais qui voulait quand même qu'il existe, on a commencé à l'accoucher par comme un recueil d'anecdotes. Voilà, on peut dire que c'est un recueil d'anecdotes.
Oui, il y a plus de 250 pages, mais avec des courts chapitres qui se lisent presque chronologiquement. Et c'est assez passionnant, en réalité, son existence. On va y revenir parce qu'on va écouter le début lu par Thibaut de Montalembert.
Les oiseaux pleurent pas la bouche pleine. Le chaud lapin, Confidence pour confidence, les maris, les femmes, les amants, la dilettante, mercredi, folle journée, mon petit doigt m'a dit. Des millions de spectateurs ont vu et revu les films de Pascal Thomas. Pascal Thomas est un auteur populaire. Son nom n'apparaît ni parmi les jurés, ni dans la sélection, et encore moins dans le palmarès des festivals de cinéma. Pascal Thomas est un naturaliste. Les maris, les femmes, les amants, les enfants, il transforme ses personnages, incarnés par Bernard Ménez ou Catherine Fraud, en phénomènes, comme il a su, grâce à son ami Malek, passionné de football et de mathématiques, changer ses grilles gagnantes de loto sportif en liasses de billets, ainsi que nous le découvrirons un peu plus loin. Poitevin par Émilien, son père, Berrichon par Pierrette, sa mère, coq gaulois, prêt à tous les combats, il est de cette culture française dont le provincialisme tend à l'universel. Avec sa complexe simplicité terrienne, ce dilettante par caractère touche à tout et à quelque chose d'essentiel, pas uniquement dans le fond mais aussi dans les formes. À ses débuts derrière la caméra, ce cinéaste classique paraphrase John Ford. Quand le personnage se déplace, la caméra le suit. Quand il s'arrête, elle s'arrête. Ses souvenirs en pagaille, truffés de ces désordres qui le caractérisent, évoquent son enfance turbulente, ses goûts, ses rencontres à l'âge d'or de la cinéphilie, ses premiers pas dans le journalisme des quotidiens de Pierre Lazareff, à Elle et Lui, les magazines, pas le film d'un de ses cinéastes préférés. Et bien sûr, ses tribulations dans le cinéma, la télévision et la publicité. Cet anti-moderne, amoureux de la littérature, est un drôle de poète, un lecteur curieux, un bibliophile averti. Passionné des œuvres de Borges, Simenon, Georges Perrault, Colette, Louise de Villemorin, Louise Labbé, Maupassant, Léoto, Marcel Aimé, Alexandre Vialat, tant d'auteurs qu'il a rêvé d'adapter.
Merci Thibaut de Montalembert. Alain Crugère, vous nous parlez de Pascal Thomas, Souvenir en pagaille, que vous avez écrit avec Jean-Olé Laprune, chez Séguier. Alors, est-ce que vous avez découvert des choses que vous ignoriez?
Oui.
Oui, beaucoup.
Oui, oui. Oui, beaucoup. Beaucoup parce que donc, Pascal est né le 2 avril 1944, donc il va avoir 80 ans. Il a toujours triché, d'ailleurs il commence en disant que son premier mot était un mensonge, hein, donc au oui. moins...
En même temps, il n'est pas très tendre avec lui, il dit qu'il était un enfant turbulent, bafouillant, bègue et myope.
Oui, oui, non, mais tout ça est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vérité chez cet homme. Alors, c'est d'abord, c'est d'abord un homme qui se destinait à l'écriture avant de devenir
il était journaliste.
Le cinéaste. Alors, il a rêvé d'être écrivain. Son premier entretien, c'était avec Jacques Chardonne, à la Frette-sur-Seine. Et. Il a eu deux professeurs qui l'ont particulièrement marqué, dont l'un, Raoul Duval, avec lequel il a écrit ses premiers films. Donc son lien avec la littérature est intime. Et en plus, c'était avec des auteurs très éclectiques qui vont de Michel Déon à Blondin, en passant par les grands auteurs de la littérature française du 19e siècle. Mais aussi, si on remonte le temps, si on va jusqu'à un auteur comme Paul Léoto et quelqu'un qui l'a passionné. Il a voulu d'ailleurs adapter les écrits de Paul Léoto sur sa jeunesse, et ça le passionnait.
Et puis il collectionnait les lettres, les brouillons des auteurs.
Il était bibliophile, mais il était bibliophile en particulier de manuscrits. Et donc, alors Pascal, c'est un homme qui a eu beaucoup d'argent, qui a dépensé beaucoup d'argent en œuvres, en particulier en manuscrits. Il a eu des manuscrits originaux très précieux. Il a une passion pour Borges, c'est Borges, si on doit prononcer le nom. Et il a eu des manuscrits très rares.
Mais c'est incroyable parce qu'on découvre qu'il a gagné beaucoup plus d'argent au loto qu'en faisant certains de ses films.
Ah oui, alors ça fait partie aussi des mystères du personnage parce que Pascal Thomas a, à un moment donné, donc a eu plus, il y a eu plusieurs vies. Alors, si on, il a eu, on raconte sa vie d'enfant, d'écolier.
Il en a fait les zozos.
De littéraire cinéphile, absolument. Il en a fait les zozos. On raconte sa vie à la campagne. Sa vie à la campagne dans, dans le Poitou, dans, dans, ce, dans, dans, dans son Poitou, qui est d'ailleurs le petit bonnet du Poitou et le symbole de sa société de film. Ce que je trouve intéressant avec cet homme, c'est que toutes ses vies s'additionnent et il reste toujours fidèle à l'enfant qu'il, qu'il a été. C'était un petit enfant turbulent, bégayant, farfelu, mais en même temps très original, très intelligent, très vif, très provocateur. Tout ça s'additionne et on le retrouve dans ses films. C'est-à-dire que le dilettante, c'est lui. Et dilettante au sens de cet homme curieux de toute chose.
Oui, il dit qu'il fait les choses pour son plaisir et il rappelle que c'est le cas de... Il y a ce chapitre sur Renoir où il rappelle que Renoir ne peignait que par plaisir de la même manière que lui aussi. Il tournait des films en le sachant avec un scénario mais qui ne suivait absolument pas. Il ne savait jamais ce qu'il allait tourner dans la journée. Il utilisait l'air du temps, l'humeur de l'acteur. Enfin, vous décrivez incroyablement bien cette... joie de vivre, justement, de Pascal Thomas.
Alors, Claude Berry disait Pascal Thomas, c'est un pialat rigolo. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit peu connu Maurice Pialat et Claude Berry, et donc Pascal depuis seulement à peu près 25 ans. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a vraiment... Pialat, c'est la vie. Et Pascal Thomas, j'ai l'impression que c'est la vie dont il aurait enlevé les choses les plus douloureuses. C'est-à-dire que Pialat va chercher dans, dans la douleur et dans la souffrance et dans la mort cette vie-là, cette vérité. Et le regard de Pascal Thomas sur la vie, et beaucoup plus la recherche de la fantaisie qui n'exclut pas des émotions. Pour moi, son plus beau film, et je crois qu'il partage ce sentiment, c'est Confidence pour Confidence, qui est l'histoire de trois sœurs juste après-guerre dans un milieu assez modeste de commerçants de la banlieue parisienne qui vont venir s'installer à Paris. Et c'est très touchant, je veux dire. Il a une façon d'émouvoir par une sincérité, une vérité qui rend ses films toujours vivants.
Et alors, ses grands succès, c'était quoi? La dilettante, c'était alors, Les maris, les femmes, les amants
qui ont... Les maris, les femmes, les amants, dont la chanson de Paolo Conte, je dirais, était à la fois la bande-annonce et l'un des moments créés dans le film.
Bon, on va l'écouter peut-être. Mais...
On peut l'écouter.
Oui, plaisir. Voilà. Ça s'appelle Via Con B.
Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom-chi-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom-chi-boom-boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful. It's wonderful I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chip, chip. Do 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 do. Chip, chip. Do 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 do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, bum. Do 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 do. Chibum, chibum, bum. Do 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 do.
Anna Krugère, on parle de Pascal Thomas, Souvenir en pagaille, que vous avez écrit avec Jean Olé Laprune. On parlait de la musique, du rôle d'ailleurs de la musique dans les films de Pascal Thomas. C'est intéressant aussi, en tout cas dans ce film Le mari, les femmes, les amants, qui est d'une gaieté absolue.
Gaieté et... avec
une nostalgie aussi, toujours.
Ces moments de mélancolie, de... Pascal Thomas était un fou du cinéma italien des petits maîtres. Lui-même se définit comme un petit maître, mais c'est pas du tout neutre. C'est-à-dire que les grands noms du cinéma italien, Visconti, Antonioni, tout ça, c'était pas ce qu'il aimait. Il a bien sûr même Fellini, mais lui, il a aimé Comencini, Scola, Risi, cette Monicelli, tout ça, ce cinéma qui est arrivé en France grâce à l'attaché de presse Simon Misrahi qui a voulu faire découvrir tous ces auteurs qui étaient des auteurs qui avaient surtout du succès chez eux. Mais il y avait cette amertume, cette comédie tragédie italienne qui était si piquante et qui donnait des nouveaux monstres, Nous sommes tant aimés, La terrasse, tous ces films qui donnaient une tonalité particulière, comme la journée particulière de Scola. Il y avait toujours quelque chose, une émotion portée par des acteurs la génération de Mastroianni, Toniazzi, Alberto Sordi, tous ces gens-là.
Ces acteurs, c'était plutôt Daniel Secaldi, c'était au début en tout cas.
Alors non, ces acteurs chéris, c'est bien entendu Daniel Secaldi, Bernard Ménez, dont il partageait un petit peu la création, entre guillemets, avec Jacques Rosier. Mais surtout, il donnait quelque chose de... là aussi de la vie, en allant chercher auprès de ses amis, auprès de personnes qu'il avait croisées, des anonymes complets, et il les transformait en acteurs, et ils étaient justes, mais il a donné un de ses plus beaux rôles à Jean Carmé aussi. Dire des films comme Pleure pas la bouche pleine sont des films qui sont là aussi terriblement dans la vie. Et il raconte aussi qu'il défendait un cinéma provincial. Son idée, c'était, même si lui est né à Paris et a un côté Titi Barrigo tout à fait réel, il revendique ses souches berrichonnes d'un côté, le Poitevin de l'autre côté.
Et il dit « légèreté et anticonformisme sont ses maîtres mots à propos de son cinéma ». Vous approuvez ce qu'il dit ?
Ah oui, non. Alors, non seulement j'approuve, mais vous disiez tout à l'heure à quatre mains, je dirais, on pourrait dire à six mains, parce que ce qui a été infernal, c'est que Pascal, à un moment donné, n'a plus voulu que ce livre existe, c'est-à-dire que...
Parce que c'était trop intime, parce qu'il s'était trop dévoilé.
Il n'avait pas envie de le lâcher, il disait qu'il ne se reconnaissait pas, et puis alors maintenant qu'il est sorti, il est très content. Mais...
Mais en même temps, il parle de lui, mais il parle de tout un groupe, un peu comme à propos des ozones de son film. Il dit que ce n'est pas un film autobiographique, que c'est une autobiographie collective. Et je me suis dit que c'était absolument la même chose avec ses souvenirs en pagaille, où on voit tous les producteurs, les réalisateurs, on a parlé des acteurs. Enfin, c'est tout son univers que vous avez réussi à transposer dans ce livre.
C'est-à-dire qu'il a... Pascal, il est arrivé un petit peu à la suite des grands cinéphiles macmahoniens, des gens comme Pierre Rissian, comme Michel Simon. Il était beaucoup plus jeune, mais il était dans ce sillage-là d'un cinéma, le cinéma qui est plus près, je dirais, de la ligne de la revue positive que des cahiers du cinéma. Il avait en horreur un certain nombre d'auteurs qui l'ennuyaient profondément. C'est-à-dire que le mot qu'il déteste le plus, je crois, c'est le mot « ennui ».
Et d'ailleurs, il ne fait des films que quand il en a envie, puisqu'il fait des films de publicité. D'ailleurs, il donne une anecdote qui était extrêmement drôle quand il dit, il tourne un film publicitaire à Étretat et on lui dit qu'il faut dédramatiser la falaise. Moi, ça me fait hurler.
Oui, mais c'est du jargonnage de publicitaire, absolument. Mais il a fait énormément de films publicitaires. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu à un moment donné un autre cinéaste qui est Éric Lartigot, qui a été son assistant à la publicité. Oui, il a traversé un certain nombre de vies. Donc, on parlait de ce début de journaliste. Il a été journaliste pendant 6 ans et il a croisé à cette époque-là des grands noms du journalisme, de Pierre Lazareff à Philippe Labro, en passant par Henri Marc, Paul Genelli, enfin... Tous ces gens-là ont été un peu ses parrains dans la presse. Et puis, il a rencontré aussi Hélène Lazareff et Peter Knapp, enfin, au journal Elle. Et il a rencontré la bande de Philippe Aki au journal Lui. Enfin, il y a tout un côté joyeux là-dedans. C'est des époques joyeuses. C'est des époques d'après-guerre où... Et il y avait un appétit de vie absolument merveilleux.
Alors, il parle de cinéma aussi, évidemment.
Eh ben oui, quand même.
Mais je vous cite, ou je le cite, on ne sait pas. La projection, c'est l'âme, la respiration d'un film en 24 images secondes. La matière traversée par la lumière du projecteur est un souffle que l'on ne peut pas retrouver en numérique. Diffusion n'est pas projection. Le cinéma, c'est ce qui se projette. Il n'y a pas de cinéma sans salle de cinéma. Vous êtes d'accord, Alain Carrère, vous qui êtes producteur et...
Moi, je suis plus que d'accord. C'est-à-dire que nous, on fait une émission de cinéma qui s'appelle Le Cercle sur Canal+, et on ne défend que le cinéma au cinéma. Mais il y a des lieux sacrés. Le fait d'avoir rasé, ça, il le pleure. Pascal Thomas le pleure. Le fait d'avoir rasé le Gaumont Palace... C'est une infamie. Le fait qu'il y ait heureusement toujours le Grand Rex à Paris, c'est merveilleux. Qu'il y ait le Studio 28, qu'il y ait des salles Action. Enfin, ce sont des temples. Si on veut sacraliser le cinéma, on a besoin d'avoir des lieux sacrés. Et le cinéma, c'est un lieu sacré. Et c'est vrai que c'est mieux aussi... le cinéma dans une salle qui est habitée, qui est animée, qui est vivante, plutôt que dans un centre commercial.
Et alors, il fait la liste de ses films, il parle de son ciné-club et la liste. Est-ce que vous partagez la même liste?
Alors, ce sont des listes qui sont évolutives. Ça, c'est une liste qu'il fait quand il a... les premières listes, il les fait quand il a 16 ans, à 20 ans. Bien sûr, ça change. C'est vrai que dans son dernier film, qui s'appelle Le Voyage en pyjama, qui est un film absolument charmant et qui est un film qu'il a fait avec très très peu de moyens et dont le personnage principal est incarné par son beau-fils. Et ce que je trouve intéressant avec ces films et avec ce regard sur le cinéma, c'est que dans ce dernier film, Voyage en pyjama, il rend hommage à sans doute le film qui l'a le plus marqué dans sa jeunesse, qui est Moonfleet de Fritz Lang, qui est un film que reniait Fritz Lang lui-même, donc aussi parce qu'il n'avait pas marché. Enfin, tout ça, c'est toujours très mystérieux, pourquoi on aime un film. c'est dans quel état on le voit aussi. Mais c'est vrai que lui, ses copains, quand il a commencé dans le cinéma, s'appelaient Claude Chabrol, s'appelaient Claude Berry, s'appelaient Maurice Pialat, s'appelaient Jean-Yann. Enfin, c'est...
Et puis il y a ce chapitre, les films qu'on n'a pas faits, qui m'a évidemment passionnée, parce qu'on a tous dans les tiroirs tout ce qu'on n'a pas fait, et qui est très intéressant. Et le livre est tout à fait drôle, il y a aussi ce chapitre, vous avez un art pour les titres, je ne sais pas qui a trouvé les titres, mais le cinéma n'est pas un art aux yeux de ceux qui en font le commerce.
Ben ça c'est une phrase de Pascal, enfin je pense, parce que alors ce qui s'est passé c'est que, donc on a donné un certain nombre de versions à Pascal, qui les a adoptées, commentées, critiquées. Donc, parler de six mains, d'un travail à six mains. Alors, il dit je ne suis pas l'auteur, je suis le sujet. Mais bien sûr, je veux dire, il est au centre du livre. Et il y avait un vrai travail de montage, c'est-à-dire que nous essayons de découper le récit d'une telle façon que, d'une part, moi aussi j'ai cette obsession que le lecteur ne s'ennuie pas, qu'il s'amuse, qu'il découvre aussi des singularités. Et là, il y en a énormément.
Énormément, on s'amuse absolument tout le temps. C'est un livre, je rappelle le titre, hein, Pascal Thomas, Souvenir en pagaille de Alain Crugère et Jean-Olé Laprune aux éditions Séguier.
Alors, je préciserai juste une chose, pardon, sur le titre. C'est que...
Anecdote recueillie bien malgré lui.
Voilà.
Que j'ai omis. Vous avez... Oui. C'est écrit en petit. Hein.
C'est écrit en tout petit, absolument. Mais c'était pour aussi rétablir une vérité historique. C'est vrai que chaque fois qu'il sait quelque chose, il dit, mais ça n'intéressera personne. Mais, ces anecdotes sont ridicules. Enfin, et c'est vrai que quand on les relit, on se rend compte qu'il a une vie absolument très amusante.
Oui, je ne sais plus où c'est, mais à un moment donné, il écrit que les souvenirs sont trop lents et qu'il faudrait juste sauter tout.
ce qui est drôle, c'est que bon, il trouve que le jeu est haïssable, ce qui est tout à fait à son honneur, et en même temps, l'idée, c'était quand même de le faire parler à la première personne du singulier. Donc, on n'allait pas raconter. On a fait une version où on était à la troisième personne, mais ça ne marchait pas.
Il y a eu une version comme ça.
Oui, il y a eu une version comme ça, parce que le jeu était haïssable. Donc, voilà.
Ça ne marchait pas.
Il y a eu beaucoup de versions.
Combien de temps?
Longtemps. Longtemps.
Mais avec plaisir, car le...
Non, pas toujours avec plaisir.
Enfin, ça ne se sent pas, la souillance, dans le jeu. Ça ne se sent pas en lui.
Parce qu'on ne s'est plus parlé à un moment donné, parce qu'il ne voulait pas me donner... Que nous sommes co-auteurs, tous les trois. Donc, il ne voulait pas nous donner de bons à tirer, parce qu'il n'avait pas envie de se libérer du livre. Et puis, à un moment donné, il a dit, bon, finalement, vous avez raison... Et maintenant que le livre existe, il en est très content.
À quand vos souvenirs, Alain Crugère? Vous avez eu tellement de métiers différents, vous pourriez écrire et aussi une connaissance du cinéma, dedans, dehors.
Fictif. Non, ce qui est curieux, en fin de compte, c'est qu'on se rend compte qu'on vit des mondes différents. Et c'est vrai qu'entre le monde du cinéma que j'ai connu quand j'ai commencé à travailler... Et à aller au cinéma de façon compulsive.
Que vous continuez à faire.
Ce que je continue à faire. Mais c'est plus le même monde du cinéma. Les gens du cinéma, l'accès aux gens du cinéma, Jean-Marie Perrier réussissait à photographier les Beatles, les Rolling Stones, son ami Jacques Dutronc, Françoise Hardy, quasiment dans leur chambre à coucher. Aujourd'hui... Les talents, puisque c'est faut les appeler comme ça aujourd'hui, les talents sont tellement entourés de barrières de sécurité et d'intermédiaires qui jouent les intermédiaires et très souvent inutiles et qui sont des obstacles inutiles que c'est plus le même monde. Moi, je me souviens qu'à une certaine époque, je faisais un magazine de cinéma où les gens venaient à la maison se faire photographier, se faire interviewer. Aujourd'hui, ces choses sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliquées, et que la place du cinéma dans la société française, française en particulier, n'est plus la même. Le lieu même du cinéma, le fait qu'on puisse voir aujourd'hui sur un écran de téléphone, de dire, je me souviens de Scorsese quand il a fait The Immigrant, il a dit, mais ne regardez pas mon film sur votre téléphone, alors que les effets spéciaux sont peut-être mieux sur le téléphone. Mais non, ce qui est terrible, c'est que il est indispensable de transmettre. Je pense que c'est vraiment essentiel. Que la cinéphilie, si on ne transmet pas les films que l'on aime, l'offre est tellement gigantesque que ça ne marche pas. Donc il faut réussir à trouver des endroits. Alors c'est vrai que un livre comme celui-ci, l'émission de cinéma que nous faisons, sont des lieux de partage. On réussit à transmettre des bouts d'amour du cinéma à travers des films, des personnes, des personnalités, des caractères singuliers. Et
vous avez deux émissions. Il y en a une sur le cinéma et une sur les séries.
Oui, alors c'est vrai. Il y a le cercle cinéma et le cercle série. Mais on voit bien que ce sont aussi deux regards différents. Quand Pascal parle de projection et de consommation, on consomme une série. On peut se lever pour aller se laver les mains ou boire un verre d'eau. Au cinéma, on reste dans la salle, on est ensemble, on est concentré. On peut partager. Chaplin disait que ce qui était important, c'était de voir les comédies dans une salle bien pleine, bien serrée, que le rire passait à travers les coudes, au coude à coude. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Je veux dire, moi, j'aime énormément la comédie. Et je trouve que la comédie, ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui... Ça a disparu, les Blake Edwards, les Billy Wilder, les Rapneau, les De Broca, tout ça. Où sont-ils, je veux dire. Et aujourd'hui, on a d'un côté...
Attend Alain Kruger.
Bon, mais écoutez...
Merci beaucoup d'avoir participé à mon émission.
Mais je vous en prie, c'est trop court, ça va trop vite.
Exactement. Merci.
Merci à vous.
Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.